VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui. Abdourahmane Diab pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est mardi 21 février 2017 au sommaire. L'administration Trump dévoile un nouveau plan pour étendre le nombre d'immigrés clandestins éligibles à l'expulsion.
Je suis là actuellement exactement 25 ans. Depuis 1991, oui, je n'ai pas les papiers. J'avais le papier à partir de 98, j'ai travaillé avec ça.
L'immigration et son lot de tragédies. Plus de 70 corps ont été découverts sur une plage libyenne. En Côte d'Ivoire, 10 accusés à la barre dans le cadre du procès dit du Novotel. 4 personnes avaient été tuées en pleine crise post-électorale. Des étrangers de nouveau ciblés par des attaques xénophobes en Afrique du Sud. Plusieurs commerces ont été brûlés. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. On démarre ce journal ici aux États-Unis, où le département de la sécurité intérieure vient de publier de nouvelles directives pour l'expulsion de sans-papiers, soulignant que presque tous les 11 millions de clandestins présents aux États-Unis étaient éligibles à l'expulsion. Le point avec Nicolas Pino.
Oui, dans deux directives, le secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly, a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les sans-papiers qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions. La note est très claire et je cite « À de très rares exceptions, le département n'exemptera aucune catégorie d'étrangers expulsables », explique l'administration Trump. « Tous ceux qui ont violé les lois d'immigration peuvent faire l'objet de poursuites pouvant aller jusqu'à l'expulsion des États-Unis ». L'administration définit 7 niveaux de priorité pour les expulsions de clandestins, à commencer par ceux condamnés pour des délits ou des crimes, mais la liste inclut aussi ceux qui sont simplement accusés de délits et laisse à la libre appréciation des fonctionnaires l'évaluation du danger posé par un sans-papier à l'ordre public ou à la sécurité nationale. Les directives maintiennent en revanche la protection accordée par le président Barack Obama depuis 2012 aux sans-papiers arrivés enfants sur le territoire américain dans le cadre d'un programme nommé DACA. Le secrétaire John Kelly annonce également l'embauche de 5000 agents des douanes et 10 000 agents de l'immigration pour permettre d'accélérer la répression promise contre l'immigration clandestine.
Et nous y reviendrons dans la deuxième partie de ce journal avec l'interview d'un immigré sans papier ici aux États-Unis. Une nouvelle tragédie des migrants dans leur tentative de traverser la Méditerranée. Les corps de 74 personnes ont été découverts sur une plage voisine de Zaouïa, dans l'ouest de la Libye. Ces migrants sont morts noyés après le naufrage de leur embarcation alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Jacques Aristide.
Il s'agit d'adultes venant pour la plupart d'Afrique subsaharienne et 3 femmes figurent parmi les victimes, d'après le Croissant Rouge libyen. L'organisme de secours a été alerté hier par des habitants de Archa, à l'ouest de Tripoli, suite à la découverte d'un bateau échoué sur la plage, avec à l'intérieur plusieurs cadavres de migrants clandestins. Le Croissant Rouge libyen dit ne pas disposer de véhicules appropriés pour transporter les corps ou de cimetières pour les inhumés. Certains corps sont donc restés sur la plage et d'autres, inaccessibles, flottés dans l'eau. La traversée vers l'Italie au départ de la Libye est devenue la première voie d'accès à l'Union européenne. L'an dernier, 181 000 migrants ont foulé le sol italien. Les passeurs profitent du chaos libyen depuis la chute de Muammar Kadhafi pour organiser des départs. Les organisations humanitaires redoutent de mauvais traitements sur des migrants qui sont bloqués en Libye à cause des mesures européennes pour barrer la route à l'immigration clandestine.
L'ONU a appelé les autorités libyennes à remettre le fils de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi à la Cour pénale internationale. En 2011, la CPI avait lancé à l'encontre de Saïf al-Islam un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Mais depuis, les autorités libyennes et la CPI se disputent le droit de le juger. Détenu par les milices contrôlant la ville de Zinten, Saïf al-Islam a été condamné à mort en juillet 2015 à l'issue d'un procès dénoncé par l'ONU et des ONG de défense des droits de l'homme. Les violences xénophobes sont à nouveau en hausse en Afrique du Sud. Les récentes attaques contre des entreprises appartenant à des immigrants nigérians, éthiopiens, somaliens et pakistanais ont suscité l'indignation des défenseurs des droits de l'homme. Du côté gouvernemental, c'est le silence. Idriss Fall.
La tension est palpable à Johannesburg alors que les attaques contre des commerces appartenant à des immigrés continuent. Certains habitants accusent ces immigrés d'être les auteurs de délits et d'être une menace à la sécurité. À Pretoria, des violences ont eu lieu dans des quartiers pauvres, comme lors de la vague de xénophobie qui avait frappé Johannesburg et Durban en 2015. Selon les forces de l'ordre, au moins 20 habitations et commerces ont été attaqués hier lundi. Aucune arrestation n'a eu lieu, car selon la police, aucun immigré n'a porté plainte. Prince Bina est le représentant de la communauté congolaise.
I have a friend, for instance, in Pretoria West.
J'ai un ami qui vit dans le quartier ouest de Pretoria qui m'a appelé pour dire qu'il a tout perdu. On lui a volé sa voiture et mis à sac son appartement sans raison aucune. Il regrette vraiment d'être venu ici.
Le président Jacob Zuma ne s'est pas encore prononcé sur ces attaques. Le maire de Johannesburg avait, en décembre dernier, publiquement accusé les immigrants de rançonner le pays. Ses commentaires lui avaient valu de vives critiques.
C'était plutôt Claire Morin-Gibourg. Ouverture aujourd'hui en Côte d'Ivoire du procès des disparus d'un hôtel. 4 hommes avaient été enlevés le 4 avril 2011 à cet hôtel d'Abidjan au plus fort de la crise post-électorale, puis assassinés. Les explications d'Éric Manirakiza.
L'ancien commandant de la garde républicaine, le général Mrino Dogboblé, est le principal accusé. Il est poursuivi pour séquestration et assassinat, tandis que les co-accusés le sont pour enlèvement et ou disparition de cadavres. 5 ans après, la justice et les parties civiles ne parviennent pas à connaître les commanditaires ni où se trouvent les corps de Stéphane Franz Diripel, directeur du Novotel, du Béninois Raoul Adeossi, assistant du directeur général du CIFCA, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, et du malaisien Chelia Pandiane, directeur général d'une filiale de CIFCA. Fin mai 2011, deux corps avaient été retrouvés dans la lagune près d'Abidjan, mais seul le cadavre d'Yves Lambelin, directeur général de CIFCA, avait pu être formellement identifié. Malgré les témoignages, la défense dénonce une instruction bâclée sans analyse balistique ou ossements retrouvés. Selon Maître Ange Rodrigue Dadjé, avocat du général Dogboblé, on est en train de vouloir condamner les innocents.
Le président nigérien Muhammadu Buhari va prolonger son séjour à Londres, où il se trouve depuis déjà un mois pour des raisons médicales. L'annonce a été faite par son porte-parole qui s'est tout de même voulu rassurant. Au Gabon, le gouvernement prend des mesures face à la grève des enseignants qui dure depuis des mois. Les autorités annoncent des sanctions contre les grévistes au lendemain de marches de lycéens suscitées, selon le gouvernement, par les professeurs. Et puis, le président zimbabwéen Robert Mugabe a célébré ce mardi ses 93 ans, ne montrant aucune intention de quitter le pouvoir. La majorité des gens pensent qu'il n'y a personne pour me remplacer, a-t-il assuré. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 36 ans, est le plus vieux président au monde.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a condamné les menaces qu'il qualifie de horribles et douloureuses visant la communauté juive. Une déclaration qui intervient après des alertes à la bombe dans des centres communautaires et des profanations de tombes dans le centre des États-Unis. Le FBI a ouvert une enquête sur ces fausses alertes à la bombe reçues dans plusieurs centres à travers les États-Unis. Le président américain ne s'était toujours pas exprimé sur ces incidents visant la communauté juive. Un tribunal militaire israélien a condamné aujourd'hui à 18 mois de prison le soldat Elor Azaria, accusé d'avoir achevé un assaillant palestinien blessé. Point d'orgue d'un procès qui a profondément divisé le pays. Salwa Jafari.
Le procureur général Nadav Weizmann a annoncé le verdict devant un parterre de journalistes. 18 mois de prison pour le soldat Elor Azaria. Il avait été filmé le 24 mars 2016 par un militant pro-palestinien d'une ONG israélienne alors qu'il tirait une balle dans la tête d'Abdel Fattah al-Sharif à Hébron, Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Le Palestinien venait d'attaquer des soldats au couteau. Atteint par balle, il gisait au sol, apparemment hors d'état de nuire. L'autorité palestinienne dénonce un jugement biaisé. Les proches du Palestinien ne sont pas surpris par le verdict. Fatih Sharif est l'oncle de la victime.
Ce procès a été créé par l'occupation israélienne. C'est un jeu pour eux, un scénario écrit et produit entièrement par les Israéliens. En tant que membre de la famille de la victime, que pourrions-nous espérer ?
Au moment des faits, les territoires palestiniens, Jérusalem et Israël étaient en proie à une vague de violence quasi quotidienne. Elles ont fait 252 Palestiniens tués et 40 Israéliens. Les autorités israéliennes assurent que les Palestiniens tués étaient des assaillants. En revanche, les autorités palestiniennes dénoncent des exécutions.
Les forces irakiennes ont consolidé ce mardi leur position après une percée vers les limites de Mossoul. Des combattants se disent confiants d'une progression rapide pour la reprise de la partie occidentale de cette deuxième ville d'Irak. Les milliers de soldats, policiers et miliciens engagés dans l'opération lancée dimanche pour reprendre l'ouest de Mossoul cherchent dans un premier temps à conquérir l'aéroport. Le président de la Commission européenne avertit Londres, Jean-Claude Juncker, a indiqué que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne se fera pas à coût réduit et la facture en sera même très salée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriec.
La reprise de la croissance s'accélère au Burkina Faso. L'économie a cru plus fortement que ne l'attendait le gouvernement l'an dernier. Pour 2017, le ministère de l'économie table sur une prévision encore plus forte autour de 7,6%, une embellie qui s'explique essentiellement par le rebond de la production agricole et minière. Pour éradiquer la corruption, mieux vaut traquer les tigres que les mouches. C'est en ces termes que s'est exprimée Christine Lagarde dans son analyse de la santé des Afriques. La directrice générale du Fonds monétaire international, qui s'est rendue en Centrafrique, en Ouganda et à Maurice le mois dernier, a également mis l'accent sur la lutte contre les inégalités. Côte d'Ivoire, Air France lance une nouvelle chaîne d'information via WhatsApp. La compagnie aérienne entend ainsi répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et enrichir l'expérience client. Un service totalement gratuit, diffusant des informations, des offres ou des conseils de voyage à ses passagers.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane.
Alors on en sait plus sur la bousculade mortelle lors d'un match de football en Angola.
Oui, une vingtaine de personnes avaient trouvé la mort devant le stade de football de Huige dans le nord de l'Angola avant le coup d'envoi d'un match entre le club local de Santa Rita et du Recreativo do Libolo. La Fédération angolaise de football annonce donc ce mardi une défaillance du dispositif de sécurité. On rappelle que le dernier bilan officiel fait état de 17 morts, 58 blessés, mais selon des sources médicales, au moins 25 personnes sont mortes.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
À l'Etihad Stadium, Manchester City et Pep Guardiola, qui alternent le bon et le moins bon cette saison, reçoivent Monaco, solide leader du championnat de France. Monaco, la meilleure attaque d'Europe, qu'on n'attendait pas à un tel niveau cette saison, face à l'une des grosses écuries de Première Ligue, entraînée par l'expérimenté Pep Guardiola, qui a amené à deux reprises le FC Barcelone sur le toit de l'Europe en 2009 et 2011. L'autre match ce soir, les Allemands du Bayer Leverkusen vont recevoir l'Atlético Madrid et sa paire d'attaquants français Antoine Griezmann et Kevin Gamero. Finaliste de la Ligue des Champions en 2014 et en 2016, l'Atlético part favori face au Bayer, huitième du championnat d'Allemagne actuellement.
La suite, c'est demain.
Oui, la Juventus Turin, finaliste de l'édition 2015, se lance dans les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions en position de favori sur la pelouse du FC Porto. Ce sera demain une soirée riche en duel, plus indécis cette fois-ci entre Séville et Leicester. On rappelle que la Juve reste sur 5 titres de champion d'Italie d'affilée et cette saison encore, elle dispose d'une large avance en Serie A. Dans l'autre huitième de finale aller, Séville reçoit Leicester, champion d'Angleterre à la surprise générale la saison passée. Mais l'équipe de Claudio Ranieri est en très grande difficulté cette année en Première Ligue, 17e à la limite de la zone de relégation.
Et le choc en Espagne, demain, Real Valence.
Le Real Madrid, à nouveau au complet, se déplace à Valence pour disputer le premier de ses deux matchs en retard en championnat d'Espagne et tenter de distancer ses dauphins. Actuellement, le Real est leader avec 52 points, un point d'avance face au FC Barcelone et 3 sur le FC Séville. Avant ce match de la 16e journée, il avait été décalé en décembre dernier pour permettre au club merengue de disputer et de remporter le Mondial des clubs.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique avec Abdourahmane Dia. À présent, les dossiers du jour. Léger remaniement hier soir au Burkina Faso. Principal changement, le président Roch Kabore a cédé le poste de ministre de la Défense. Quant au domaine de la sécurité, il fait désormais l'objet d'un ministère dédié. Seulement deux ministres quittent le gouvernement et cinq entrants. Ce changement a-t-il répondu aux attentes des Burkinabés? La réponse de Siaka Koulibaly, il est analyste politique à Ouagadougou.
Les Burkinabés avaient peut-être pensé qu'on devait s'acheminer vers un profil beaucoup plus technocratique avec des gens ayant une expérience confirmée des questions de développement en vue de se porter tout de suite sur les résultats auxquels le fonctionnement des départements ministériels devrait donner. Alors, le gouvernement avait un avantage, c'était de ne pas avoir été pris en otage par les caciques du pouvoir, du parti au pouvoir. Comme c'était souvent le cas sous le régime Kompaoré, c'est vrai que cet aspect a été renversé par le président Roch Marc-Christian Kabore. Mais en revanche, les personnalités qui avaient été mises étaient considérées comme n'ayant pas suffisamment d'expérience pour rencontrer tout de suite les attentes du peuple burkinabé qui sont importantes. Il y avait des aspects politiques, mais l'essentiel, c'était les droits socio-économiques et la provision des biens et services par les services publics aux populations.
On voit que le changement est surtout intervenu au niveau de la sécurité, de la défense, hein, mais il n'y a pas de militaires dans ce gouvernement.
Voilà. Oui, le président avait annoncé ça déjà lors de son entretien du 29 novembre avec les journalistes. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de militaires dans son gouvernement. Cet aspect a été respecté, mais là-dessus, on se demande est-ce que, tel que ça se présente, on aura l'efficacité qui est exigée par les défis de l'heure, à savoir une insécurité beaucoup plus grande due aux attaques terroristes. Jusque-là, on n'avait pas vu vraiment l'armée aux premières loges là-dessus. Donc, on s'est dit que le fait d'avoir un ministre spécialisé, enfin, séparé, qui traite des questions, au moins les dimensions administratives et managériales de la défense vont au moins connaître beaucoup plus d'attention de la part du ministre que quand c'était pris en charge par le président de Faso lui-même.
Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements sur le terrain dans les jours à venir, ne serait-ce que dans la façon de gouverner?
Justement, le remaniement qui a été fait hier ne permet pas d'envisager des changements majeurs, parce que c'est justement là où les Burkinabés ne sont pas satisfaits de ce changement, de ce remaniement, parce que c'était attendu à beaucoup plus de remue-ménage au niveau gouvernemental. Donc les changements ne vont pas être importants dans la mesure où dans la plupart des départements ministériels, les pensionnaires sont restés les mêmes.
C'était Siaka Koulibaly, analyste politique. Il a été joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La consommation du tabac dans les lieux publics et la contrebande sont toujours une réalité au Togo, malgré l'existence de textes juridiques les interdisant. Le non-respect total de la loi anti-tabac au Togo agace la société civile, qui reconnaît tout de même des avancées. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Le 30 décembre 2010, l'Assemblée nationale togolaise a voté une loi pour contrôler le secteur du tabac dans le pays. Plus de 6 ans après, des lignes ont bougé, mais pas à la hauteur des attentes. Fabrice Ebé, directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement.
On ne voit plus aujourd'hui les panneaux géants des films de tabac dans les rues, ou bien les véhicules des films de tabac avec leur logo partout, on ne les voit plus. Il y a aujourd'hui les avertissements sanitaires sur les paquets, quand bien même ce n'est pas encore les images, mais c'est les messages. La réglementation des points de vente, il y a beaucoup de soucis parce que normalement, on ne peut plus vendre aujourd'hui le tabac n'importe où. Pour vendre, il faut avoir une licence particulière et ensuite, on ne peut plus vendre le tabac en détail.
L'autre problème est le non-respect des dispositions fiscales en matière de tabac, soulève l'Association togolaise des consommateurs. Benetti Gagalo, vice-président de l'ATC.
Le problème de tabac engendre beaucoup de conséquences socio-économiques. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner pour l'État. Les commerçants véreux font des déclarations comme ces produits sont en transit et après on retrouve ces produits sur le territoire. Ceci dit que le produit n'a pas subi les dispositions en matière de fiscalité. Donc, c'est un manque à gagner pour l'État.
Depuis le 1er septembre 2014, les emballages de cigarettes qui circulent au Togo portent des informations sanitaires. En plus d'informer la population sur les dangers que représente la consommation de tabac, c'est une stratégie pour lutter contre la contrebande. Docteur Vigno Kumako, coordinateur du programme anti-tabac.
Sur les phases principales, on a les avertissements sanitaires. Donc, en français et en évé sur la première face, en français et en cabiais sur l'autre face. Et sur les faces latérales, en dessous de la marque, nous avons vente uniquement autorisée au Togo, ce qui permet de reconnaître le vrai du faux et de pouvoir faire rapidement les diagnostics de contrebande. Et sur l'autre face, la fumée du tabac contient du benzène, substance cancérigène bien connue.
Même si le souhait de la société civile est d'interdire l'importation du tabac au Togo compte tenu de ses conséquences, le professeur Toulassi Kodjo-Apaka indique que cela ne peut se faire qu'à contraire aux règles du commerce et de l'intégration.
Il est interdit d'interdire le commerce, surtout dans le cadre des institutions d'intégration. Lui et moi, la CEDEAO, la CEMAC, il y a des clauses qui favorisent la libre circulation des facteurs de production et des produits. Donc on ne peut pas interdire a priori. Il vaut mieux prévenir.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Quelques 2 millions de réfugiés sont confrontés à des pénuries alimentaires en Afrique. C'est l'avertissement lancé par le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le HCR. Ces agences onusiennes disent avoir réduit en quantité et en qualité l'assistance alimentaire à ces réfugiés. Le principal problème est que la générosité des donateurs n'a pas augmenté au même rythme que le nombre de réfugiés. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint à Genève Cécile Pouilly. Elle est chargée de communication du HCR.
Eh bien, vous savez, le nombre de réfugiés en Afrique a presque doublé entre 2011 et 2016. Et même si la réponse humanitaire a augmenté, elle reste malheureusement insuffisante en raison du manque de fonds.
Le PAM et le HCR font état d'une réduction dramatique de l'assistance alimentaire, qu'en est-il?
Oui, en effet, dans certains cas, les rations alimentaires ont dû être diminuées de manière assez drastique et même à hauteur de 50% dans certaines situations, dans des opérations telles que le Cameroun, le Tchad, le Kenya, la Mauritanie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Et l'on voit des conséquences graves sur les réfugiés. Pour certains, ils n'ont pas le droit de travailler, donc ils sont dans des situations extrêmement difficiles et même s'ils essayent de faire de leur mieux pour s'en sortir, ils sont dans des situations compliquées. On voit des conséquences en termes de santé, on voit des conséquences en termes de protection parmi ces personnes vulnérables. Et donc, on appelle aujourd'hui les donateurs à faire davantage pour mettre fin à ces pénuries alimentaires et pouvoir protéger les plus faibles.
En attendant, qu'est-ce qui peut être fait concrètement en faveur de ces réfugiés?
Alors, bien sûr, nos interventions sur place continuent. Nous essayons de faire de notre mieux avec les ressources budgétaires qui sont les nôtres. Mais il faut être très clair, si on n'a pas les fonds nécessaires, nous ne pouvons pas intervenir comme nous le souhaitons. Et rappelons que parmi ces réfugiés, certains arrivent dans des états très compliqués. Par exemple, depuis le mois de janvier, à peu près 75% des enfants réfugiés qui arrivent de Somalie en Éthiopie sont gravement malnourris. Donc on est dans des situations où il faut vraiment intervenir rapidement pour éviter des conséquences très graves sur les gens et en particulier sur les enfants. Éviter également que les réfugiés n'aient recours à des situations pour gérer cette crise très grave. Alors par exemple en sautant des repas ou avec des conséquences pour les enfants comme qui les obligent à sortir de l'école pour aller travailler et aider à subvenir aux besoins de leur famille.
Quelle est l'incidence de cette situation sur les communautés voisines de ces réfugiés?
Les communautés voisines sont forcément impactées par cette situation. situation. Pour certaines, elles font aussi face à des situations de pénurie. On voit en ce moment, par exemple, dans la Corne de l'Afrique, une situation de sécheresse qui touche non seulement les réfugiés, mais également les communautés locales. Il faut leur venir en aide également, c'est très important. Et nous faisons notre maximum dans les contraintes qui sont les nôtres en raison de ces limites budgétaires.
C'était Cécile Pouilly, chargée de communication du HCR.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La nouvelle administration Trump a commencé à mettre à exécution sa menace concernant les immigrés clandestins. Le département à la sécurité intérieure a dévoilé un plan pour accélérer le rapatriement d'illégaux. Idriss Fall a joint tout à l'heure un immigré sans papier, Mamadou Touré.
Je suis là actuellement exactement 25 ans, depuis 1991, oui, je n'ai pas le papier. J'avais le papier à partir de 98, j'ai travaillé avec ça, ça s'est périmé en 99, ils n'ont pas voulu renouveler. Je suis allé devant 26 Fleur Plaza, ça a mal tourné, le juge n'a pas voulu. Donc depuis là, je travaille souvent avec mon ancien social sécurité qui permet, là où je suis, certains employeurs n'utilisent pas la technique de contrôle annuel. Donc, ce qui fait que, avec la protection de Dieu, je suis là-bas. Mais là, j'ai perdu un boulot à cause d'une investigation avant.
L'administration Trump, le ministère de la Sécurité intérieure, vient d'adopter un nouveau décret. Quelle est votre réaction à ce décret?
Moi, je pense que ça, c'est une décision qui n'est pas très responsable parce que quand vous regardez, moi, mon cas personnel, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans ces situations, pas seulement des Africains, qui travaillent, qui paient les taxes fédérales et tout. Donc, à dire qu'on va faire comme on le dit chez nous en Afrique, le bâton de la ville, c'est une véritable chasse à n'importe qui on va faire l'expulser. Tout le monde n'est pas criminel, tout le monde n'est pas quelqu'un qui est là pour faire du mal. Il y a certains qui n'ont jamais même bénéficié d'aide sociale. Moi, personnellement, quand j'ai perdu mon boulot, je n'ai même pas bénéficié de l'unemployment. On ne me payait pas de frais pour ça, alors que j'ai contribué avec les taxes.
Et comment les gens, au niveau de la communauté africaine dans laquelle vous vivez, comment les gens vivent en fait, ces nouvelles mesures de l'administration Trump?
Les gens sont vraiment inquiets. Depuis avant que ça ne sorte, les gens sont vraiment inquiets. Et en plus, la seule chose là où moi je suis, c'est que le gouverneur et le maire de la ville, de l'État et de la ville, ont dit de ne pas avoir peur. Si vous n'avez pas d'antécédent avec la justice, si on vous arrête, ils ont donné des numéros pour contacter. C'est, les gens vivent sur ça, et puis c'est optimiste, et puis leur foi, en tant que la plupart des gens qui sont des croyants. Ils disent que ce que Dieu décide va arriver. C'est les deux points qui arrivent, que les gens essaient d'adopter.
Voilà, un immigré sans papier exprimant son inquiétude au micro d'Idriss Fall.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.